À voix nue, Caroline Brouet.
François Molins. J'ai été au service de la justice de mon pays pendant 46 ans.
Deuxième épisode, magistrat de terrain. Bonjour François Molins.
Bonjour.
Hier, pour la première émission, nous avons parlé de vos premiers pas. Aujourd'hui, logiquement, ce sera les deuxièmes. On va parler de Montbrison, oui. Où vous avez été procureur de la République près le tribunal de grande instance de 1986 à 1988. De Villefranche-sur-Saône, où vous avez été procureur de la République de 1988 à 1991. De Bastia, où vous avez été substitut général près la cour d'appel de 1991 à 1993. De Lyon, où vous avez été substitut général à la cour d'appel, puis secrétaire général du parquet général de 93 à 96, puis premier procureur adjoint près le tribunal de grande instance, et enfin d'Angers, où vous avez été procureur de la République près le tribunal de grande instance de 2000 à 2001, c'était un peu moins long, avant d'être nommé directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. J'ai tenu à donner tous les titres assez précisément, et les villes, mais je vous avoue que c'est assez compliqué, ouais. Quand on est néophyte, comme je le suis, tous ces termes juridiques pour s'y retrouver, pour bien comprendre. Est-ce que on pourrait dire, en somme, que vous avez surtout changé de ville, ou que à chaque fois, vous avez été promu ? C'est encore plus compliqué.
Il y a un peu des deux. Au début, donc je suis promu, je suis procureur à Montbrison, je reste procureur à Villefranche. Et puis après, je vais être promu de nouveau, mais pas sur des postes de chef de parquet, de procureur, mais sur des postes d'adjoint, mais qui, bien que ce soit des postes d'adjoint, constituent des avancements. Mais qu'en réalité, je vais accepter parce que les fonctions qu'on me propose suscitent effectivement un réel intérêt. Je pense notamment à celle en Corse, on y reviendra, j'imagine, hein, et à celle à Lyon. Mais ce qui est important, c'est que Montbrison, en réalité, c'est l'aboutissement d'un rêve que j'ai depuis plusieurs années, qui consiste à vouloir devenir procureur. Donc je me retrouve procureur à Montbrison. Montbrison, c'est un endroit où je vais m'ennuyer assez rapidement, parce qu'ici passe pas grand-chose. Mais en réalité, c'est l'un des deux tournants de ma carrière, parce que l'arrivée à Montbrison, en réalité, me fait revenir dans la cour d'appel de Lyon, et me fait donc retravailler avec Pierre Truche, que j'avais pas vu depuis l'école à Bordeaux. C'est le hasard des carrières, hein, et c'est véritablement ça qui va déclencher, j'allais dire, tout le mécanisme de progression de carrière et de choix de poste qui interviendra après. C'est vraiment le premier et l'élément déclencheur.
Et c'est peut-être le moment, François Molins, de parler du rôle de Pierre Truche, et même peut-être ouais. De la figure de Pierre Truche. C'est aussi lui qui vous a parlé du poste de Villefranche-sur-Saône. À chaque fois, c'est un coup de fil de Pierre Truche qui vous a fait effectivement changer de poste. Il a été votre mentor, vous dites même qu'il a été votre modèle.
Oui.
Il faut rappeler que Pierre Truche a été notamment le procureur général de Lyon au moment du procès Barbie en 1987, et puis une très très grande carrière. Est-ce que vous nous parleriez un peu de Pierre Truche et de l'importance qu'il a eu pour vous ?
Mais comme vous dites, ça a été véritablement plus qu'un mentor, hein, une sorte de modèle qui a toujours été là pour rappeler l'importance de certains grands principes, hein, qui constituaient en quelque sorte un fil rouge, hein. C'est effectivement le respect du droit et le respect de la loi, hein, qui est le premier devoir, j'allais dire, du magistrat, la loyauté dans l'application de la loi, mais aussi quelque chose de tout aussi important et capital, qui est le respect de la dignité de l'autre et le respect de ses droits. Quoi qu'il ait fait, même s'il a commis les choses les plus horribles qui soient, il a des droits et ses droits doivent être respectés et sa dignité doit être respectée dans le cadre des procès dans lesquels il sera attrait. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours essayé de faire vivre dans tous les postes que j'ai occupés. C'est quelqu'un, en fait, qui était, je pense, visionnaire sur l'évolution de l'office du magistrat et l'évolution de la justice. Et qui a toujours exercé ses fonctions avec beaucoup d'exigence, beaucoup d'humanité, d'humilité aussi, du courage, parce que il a eu en charge un certain nombre de dossiers dans lesquels les décisions à prendre n'étaient pas forcément évidentes. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré.
Alors, vous êtes resté 2 ans à Montbrison, dans cette ville où vous vous ennuyiez, malgré tout. Je ne sais pas si vous avez envie d'y revenir, de nous parler de l'action que vous y avez menée, ou si on passe directement à Villefranche.
Je me suis en réalité assez rapidement ennuyé parce que l'essentiel du contentieux était représenté par le contentieux des chèques sans provision et les problèmes de circulation routière et d'alcoolémie, ou des violences souvent sur fond d'alcool. Donc effectivement, c'était un poste qui était important parce que c'est là véritablement que j'ai appris. J'étais tout seul, j'avais pas de substitut la plupart du temps. Je n'ai eu de substitut qu'au bout d'un an, quasiment. Quand on est seul, on apprend vraiment à tout faire.
C'est formateur.
C'est très formateur. Et j'ai aspiré assez vite à autre chose.
Donc quand Pierre Truche vous appelle pour vous dire qu'un poste se libère à Villefranche-sur-Saône, on peut dire que vous sautez sur l'occasion.
J'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui immédiatement.
Et vous y voilà en juillet 1988. Vous retrouvez une profession que vous aviez auparavant connue, la profession des viticulteurs. C'est un dossier d'ailleurs parmi les plus sensibles que vous avez eu à traiter.
Oui, tout à fait. C'est une époque où... il y a une sorte de crise au niveau du Beaujolais, et puis il y a des pratiques qui sont pas acceptables hein, en termes de chaptalisation, hein, donc des achats clandestins de sucre pour aller rajouter et obtenir plus de degrés dans la vinification des mous, puis des pratiques là aussi de coupage qui sont pas normales hein, par rapport au respect des appellations d'origine, ou encore on avait trouvé la première cave clandestine du Beaujolais, un viticulteur qui avait caché, ce qu'on appelait l'assurance grêle, hein, donc la part de récolte qu'il voulait pas déclarer, dans une cave qui était couverte de gravier. Hein, donc on avait poursuivi tout ça en constituant une audience spéciale pour tous ces dossiers. Il y avait une douzaine de dossiers qu'on avait réunis et soumis au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône dans une audience qui s'est avérée assez mouvementée puisque le jour de l'audience, alors qu'on allait rentrer, on s'est aperçu qu'il y avait eu une manifestation qui avait réuni plusieurs milliers de viticulteurs la veille. Le jour de l'audience, tous les élus du Beaujolais étaient au premier rang dans la salle d'audience, le torse revêtu de leur écharpe tricolore. Donc on en a parlé avec le président Gérard Gaucher qui a dit très logiquement, mon entier soutien, qu'il était hors de question que l'audience se tienne dans des conditions comme ça et que ou ils enlevaient leurs écharpes tricolores ou on ne siégerait pas. Donc ils ont fini par enlever les écharpes et l'audience s'est déroulée de façon tout à fait normale, hein, avec des résultats qui étaient satisfaisants pour le parquet, puisque tout le monde a été condamné, mais avec une justice qui finalement a fait la part des choses et qui, je pense, au bout du compte, a été équilibrée. Elle a été tellement équilibrée que quelques semaines après, j'ai eu la surprise de recevoir un appel du président du tribunal de commerce, qui était aussi l'un des grands négociants du Beaujolais et de la Bourgogne et qui appartenait à la confrérie du Beaujolais et qui m'a appelé en me disant « Mais votre rôle a été finalement tellement apprécié qu'il voudrait vous introniser comme compagnon du Beaujolais ». Alors j'étais très embêté parce que moi je restais à Villefranche encore. Il était hors de question de devenir compagnon du Beaujolais en exerçant cette fonction. Donc je m'en suis sorti en le disant « Mais écoutez, je suis très, très honoré de cette proposition que j'accepte avec plaisir, mais... le jour où je m'en irai. »
C'est ce
et
que
le jour
fait.
Effectivement où j'ai quitté mes fonctions de procureur à Villefranche, je l'ai rappelé en disant « Mais écoutez, je vais être muté au parquet général de Bastia, donc si vous voulez toujours de moi, je viens avec plaisir et c'est avec plaisir que je deviendrai compagnon du Beaujolais. »
Et vous en avez donc gardé un goût, certain, voilà. Pour le Beaujolais.
Le bon Beaujolais.
Comment vous êtes-vous ensuite retrouvé à Bastia comme adjoint du procureur général Jean-Louis Nadal? On est en juillet 91. Hein.
Mais c'est encore Pierre Truche. Moi, à l'époque, je suis procureur de Villefranche et j'accède à ce qu'on appelle le tableau d'avancement qui va me permettre, puisque j'y suis inscrit, de prétendre à des postes de procureur plus importants, comme par exemple procureur Chambéry ou procureur Tarbes. J'étais très attiré par la montagne, hein, ou procureur Pau. J'ai demandé à ce moment-là que des postes de procureur qui couvrent en réalité les deux tiers de la France, hein, les deux tiers sud. J'ai pas demandé la Corse. J'ai pas demandé de poste de substitut général. Et un beau jour, donc Pierre Truche me téléphone en me disant « Bonjour Molins, je voulais vous proposer quelque chose. Jean-Louis Nadal vient d'être nommé procureur général à Bastia et il cherche un adjoint direct pour s'occuper de l'action publique en matière de droit commun, en matière criminelle, en matière financière, en matière de crime organisé. Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc j'étais absolument pas obligé de dire oui puisque je l'avais pas demandé. On est normalement tenu que par les desiderata qu'on a formulés. Et en réalité, j'ai vite compris l'intérêt de la proposition. J'avais peu de chances d'avoir un poste de procureur et selon toute vraisemblance, j'aurais fini par aller dans un parquet général sur le continent ou en métropole, hein, c'est bon comment on dit. J'aurais certainement, étant le plus jeune arrivé, eu le service le moins intéressant. Donc j'ai compris que le poste qu'il me proposait, en réalité, c'était une sorte d'aventure avec des enjeux hors normes, hein, et qui serait une expérience professionnelle certainement très enrichissante. Donc j'ai accepté. J'ai accepté la proposition.
Ça vous changeait des viticulteurs, hein, parce que là, les dossiers, ouais, c'est en matière de terrorisme, ouais, de banditisme, de criminalité organisée, de criminalité financière, de blanchiment. Ouais. C'est tendu à l'époque. Et d'ailleurs, ouais, Jean-Louis Nadal, c'est le véritable homme fort de l'île.
Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est un procureur général qui compte dans le paysage politique et sociologique de l'île. Hein. C'est vraiment une figure, hein, et qui est vraiment à l'écoute de tous les problèmes que connaît à l'époque la Corse, hein, qui sont des problèmes compliqués. Hein.
C'est violent quand vous arrivez. Hein,
ah oui, ça. Oui, c'est violent. Il y a la guerre entre les organisations nationalistes qui a commencé. Il y a des assassinats dans tous les sens. On avait à l'époque, chaque par an, une cinquantaine d'assassinats, un vol à main armée par jour et deux attentats à l'explosif par jour. Donc une période extrêmement agitée, plus Furiani, qui va arriver en mai 92.
Hein, la catastrophe, on rappelle, hein, l'effondrement, ouais, d'une tribune dans le stade, 19 morts, ouais, plus de 2000 blessés. Ouais. En quoi cela vous a-t-il concerné comme
ça nous a concerné parce qu'à l'époque, vous avez dans le code de procédure pénale ce qu'on appelle un privilège de juridiction, qui fait que lorsque certaines personnes sont mises en cause, ils ont, à raison de la fonction qu'ils occupent, la possibilité d'être jugés ailleurs, dans un autre tribunal, que celui dans le ressort duquel les faits ont été commis. Et c'est le cas pour les préfets. Dans Furiani, l'une des personnes mises en cause, assez rapidement, va être le préfet de Haute-Corse, qui donc rentrait dans le champ d'application de ce privilège de juridiction. Donc, à l'époque, logiquement, le parquet général de la Cour d'appel de Bastia a saisi la Cour de cassation pour faire désigner la juridiction qui serait compétente pour juger Furiani. Si la logique habituelle avait été appliquée, la Cour de cassation aurait désigné un autre parquet, loin de la Corse, et un autre tribunal. Et la force de Jean-Louis Nadal, hein, et moi j'ai beaucoup soutenu à l'époque là-dessus, a été de comprendre qu'une dépossession, une délocalisation du dossier aurait été vécue véritablement comme une sorte de dépossession et de confiscation et une sorte de défiance vis-à-vis de la Corse et de la justice et aurait donc été très mal vécue par la population et par l'ensemble de l'île. Donc il s'est bagarré pour que la cour d'appel de Bastia soit désignée pour instruire cette affaire et pour qu'elle soit jugée en Corse. Et il y est parvenu.
Quel souvenir en gardez-vous ? De ce qui s'est passé.
Mais des souvenirs très forts, hein, puisque moi j'étais sur les lieux, hein, le soir. Alors j'étais pas le procureur en charge de tout ça, puisque c'était le procureur de Bastia, Roland Mailly, qui était sur le terrain et qui gérait effectivement la direction de l'enquête. Mais on y est allé immédiatement avec le procureur général, parce que Jean-Louis Nadal, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aller sur le terrain. Et on est arrivé sur ce stade, hein, où on a vu ces brancards, ces couvertures de survie sur la pelouse, avec cette noria d'hélicoptères qui atterrissait et qui décollait en permanence pour évacuer les gens vers des hôpitaux corses, ou plus loin, dans le midi de la France, parce que les hôpitaux corses étaient complètement saturés. Et puis après, j'ai eu à m'occuper du dossier, puisque c'est moi qui ai suivi le dossier au niveau de la chambre d'instruction de Bastia pendant plus d'un an, et c'est moi qui l'ai réglé. Donc, un an après la catastrophe, le réquisitoire définitif, effectivement, était fait et c'est moi qui l'ai établi.
Et vous nous rappelez le verdict ?
Le verdict, il a été rendu par le tribunal correctionnel après que j'ai quitté l'île. Hein, effectivement, il s'est traduit par une condamnation de l'ensemble des différentes autorités administratives, sportives et politiques qui avaient été poursuivies.
Qui n'avait pas assuré la sécurité.
Qui n'avait pas assuré en réalité la sécurité, si vous voulez, sur fond d'organisation de l'événement. Donc il y a les responsables du club, il y a des membres de l'administration à travers effectivement le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, et puis les responsables de la Socotec qui étaient chargés en réalité de veiller à la solidité de l'ouvrage, hein, et pour éviter tout risque d'effondrement et qui en réalité n'avaient pas assuré correctement leur mission.
C'est quand même un vrai ou un gros baptême du feu, cette affaire-là, peut-être, oui, la catastrophe de Furiani, d'autant, François Molins, que vous menez cette affaire dans une période où, avec votre vie privée, votre vie familiale, disons, c'est un peu compliqué. Dans vos mémoires, c'est très rare que vous parliez de votre vie familiale, mais là, vous estimez nécessaire de raconter que vous vous êtes retrouvé seul à Bastia, finalement, parce que votre fils a eu des soucis pour s'adapter à... Oui, il a dû partir avec votre épouse et vous restez seul à Bastia pendant un temps.
Je ne suis pas resté complètement seul, mais c'est vrai que la famille a été un peu éclatée, parce qu'effectivement, notre fils aîné, qui était en seconde au lycée du Fango à Bastia, a été malade au bout de 2 mois, au moment des vacances de Toussaint. Et puis, on a vu que ça durait, sa maladie. Il allait moins à l'école. Et un beau jour, il a fini par nous dire qu'il ne voulait pas faire sa rentrée après la Noël et qu'il voulait revenir sur le continent. En réalité, ses cours étaient en permanence arrêtés et paralysés par des commandos qui déboulaient cagoulés pour distribuer les tracts, notamment pendant les cours de maths. Et ça, par contre, on l'a appris des années plus tard. En réalité, il était racketté. C'est-à-dire qu'on lui racketait ses devoirs. Comme c'était un très bon élève, il avait des élèves qui, effectivement, l'obligeaient à lui donner les copies en le menaçant. Mais ça, on l'a appris beaucoup, beaucoup plus tard. Et à l'époque, quand il nous a dit qu'il voulait pas rentrer, ben, on l'a écouté. Donc, on s'est séparé de lui, on l'a mis en pension chez des amis qui ont accepté de le prendre à Carcassonne, sur le continent. Et à la rentrée 1993, j'ai pris un risque, hein, alors que j'étais pas sûr, moi, de rentrer sur le continent. On a pris la décision avec mon épouse de nous séparer, c'est-à-dire mon épouse est rentrée à Lyon avec les enfants, a récupéré notre aîné, hein, pour réguler, j'allais dire, et faire en sorte que leurs études ne pâtissent pas de la situation. Et moi, je suis resté en Corse en attendant, effectivement, un projet de nomination. C'est là où je me suis retrouvé, j'ai fait un séjour de 2 mois et demi au monastère des Bénédictines et Herbalong, qui avait été organisé par mon épouse, hein, où j'étais logé au monastère avec ses sœurs qui s'occupaient de moi pour le gîte et le couvert. Et j'ai finalement pu obtenir une mutation qui m'a permis de regagner, dans le cadre d'un regroupement familial, Lyon, fin novembre de 1993.
Et vous devenez substitut général près la cour d'appel de Lyon. Secrétaire général du procureur général.
Oui.
Et vous retrouvez Jean-Louis Nadal.
Je retrouve Jean-Louis Nadal.
Bon, il faut faire encore une petite parenthèse pédagogique, François Molins, sur la spécificité du travail de ce parquet général par rapport au procureur de la République et de la cour d'appel.
Alors, le parquet général, c'est... vous avez à la base dans l'organisation judiciaire le tribunal, hein, tribunal judiciaire aujourd'hui. Au-dessus, vous avez la cour d'appel, qui juge en appel les affaires qui ont été soumises au tribunal.
C'est la deuxième instance.
Voilà. Et vous avez un ministère public dans chacune de ces juridictions. Pour le tribunal, c'est le parquet. Pour la cour d'appel, c'est le parquet général. En réalité, le procureur général est le supérieur hiérarchique de l'ensemble des procureurs de tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Et il est là, en réalité, pour assurer plusieurs missions. D'abord, il représente le ministère public devant la cour d'appel. Donc il va donner son avis sur les appels formés contre les décisions rendues par les tribunaux. Il doit veiller aussi à l'application de la loi dans toute l'étendue de la cour d'appel. Et il a aussi une troisième fonction qui est celle d'animer et de coordonner la politique pénale qui est conduite par tous les procureurs du ressort de la cour d'appel. Voilà les trois missions du procureur général.
Et vous arrivez, vous, à Lyon, au moment d'une affaire... politique, en octobre 1994, c'est pas tout de suite à votre arrivée, mais c'est l'affaire Carignon.
Oui, mais c'est l'époque des grandes affaires politico-financières lyonnaises, hein, avec des instructions qui sont conduites par un juge d'instruction très efficace qui est Philippe Courroy, et qui effectivement, à l'époque, travaille sur l'affaire Carignon, plus tard ça sera l'affaire Noir-Botton, et le parquet général est bien sûr, dans ces dossiers, suit attentivement l'évolution de ces dossiers qui sont suivis au tribunal de Lyon par Philippe Courroy et par le procureur de l'époque qui est Jean-Amédée Latoux, et est amené régulièrement à recevoir des rapports sur le suivi de ces dossiers et à lui-même renseigner à la chancellerie sur l'évolution de ces dossiers.
Oui, alors là, en octobre 1994, le juge Courroy, précisément, place en détention provisoire
Alain Carignon,
qui est ancien ministre et ouais. Maire de Grenoble. C'est un point de bascule, ces affaires, François Molins, dans les relations entre justice et politique ?
Oui, parce que c'est à cette époque que, je pense, la justice, en réalité, va exercer et acquérir une sorte de capacité décisionnelle, hein, où véritablement elle prend ses responsabilités et elle montre effectivement qu'elle peut porter le fer contre des politiques à partir du moment où on leur reproche d'avoir commis des infractions à la loi pénale. Et il y a effectivement ces affaires lyonnaises. C'est aussi l'époque, en dehors de Lyon, de toutes les affaires de financement politique, hein, Urbain Gracco. Donc je pense que c'est véritablement à cette époque que la justice acquiert cette sorte de capacité décisionnelle qui lui permet effectivement de montrer qu'elle peut exercer ce rôle à l'encontre des politiques qui effectivement ont fauté.
Vous l'évoquiez, l'autre scandale à Lyon dans les milieux politico-financiers de l'époque, c'est l'affaire Noir-Botton.
Oui.
Michel Noir, maire de Lyon, soupçonné d'avoir perçu de façon illicite 8 millions de francs, à l'époque c'est les francs, versés par des sociétés de bâtiments publics et bâtiments et travaux publics sur des comptes ouverts en Suisse par son ex-gendre, homme d'affaires lyonnais, Pierre Botton. C'est amusant parce que c'est une affaire très technique, mais c'est une affaire qui vous a passionné, parce que vous adorez la littérature juridique.
Oui, parce que la réussite de cette affaire, elle est conditionnée à la résolution d'un problème juridique qui est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais que je vais essayer d'expliquer le plus simplement du monde. Une infraction, ça peut se prescrire en fonction du temps qui est écoulé. Si l'infraction se prescrit, on peut plus la poursuivre. Et dans l'affaire Noir-Botton, on était confronté à une situation assez singulière qui faisait que, en réalité, donc l'infraction reprochée à Michel Noir, c'est un recel. Recel de fonds qui viennent d'un abus de biens sociaux qui a été commis par son ex-beau-fils, Pierre Botton. Le problème, c'est que dans cette situation, on est confronté à une situation où l'infraction de conséquence, le recel, est prescrit, alors que l'infraction d'origine, l'abus de biens sociaux, n'a pas commencé à prescrire. Pourquoi ? Parce que à l'époque, elles obéissent à des règles de prescription différentes. Le recel, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où on est rentré en possession des fonds qu'on va receler. Alors que pour l'abus de biens sociaux, comme c'est une infraction occulte, elle ne va commencer à prescrire que le jour où elle est apparue, a pu être constatée dans des conditions permettant les poursuites. Donc on arrive à quand même une situation qui heurte le bon sens. L'infraction de conséquence est prescrite, alors que l'infraction d'origine n'a pas commencé, elle, à prescrire. Donc, moi, j'ai trouvé ça profondément choquant, et je suis arrivé à convaincre mon procureur général que cette jurisprudence, il fallait la faire évoluer, et qu'il fallait la faire changer. Et donc, on a, comme on dit, provoqué un contentieux devant la Chambre d'instruction de Lyon, puis devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui nous a donné raison, et qui a donc dit, non, effectivement, l'infraction de conséquence, le recel, ne peut pas être prescrit tant que l'infraction d'origine
est en cours.
Est en cours. Donc, on revoit notre jurisprudence et on l'inverse. Et c'est ça, en réalité, qui a constitué le facteur juridique qui a permis d'entrer en voie de condamnation, hein, contre Monsieur Noir. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait échappé à cette décision, il n'aurait jamais été condamné.
Et ça, c'est une grande satisfaction.
Ah oui, sur le plan juridique, c'est une satisfaction. Puis sur le plan répressif aussi, parce que je pense que ça aurait été profondément injuste pour moi, hein, que des faits qui étaient constitués ne puissent pas être réprimés pénalement. Et puis je pense en plus que la société française dans son ensemble, nos concitoyens, n'auraient pas compris que pour une telle raison, quelqu'un qui avait commis une infraction puisse échapper à de telles poursuites.
François Molins, en septembre 1996, vous êtes toujours à Lyon, mais vous changez de fonction. Vous devenez premier procureur adjoint au parquet.
Oui.
Et là, vous faites des choses qui sont importantes pour vous en matière de politique pénale. Vous rédigez un vademécum de l'action du parquet sur ce que vous croyez. Mais par exemple, vous avez créé des choses dont j'aimerais que vous nous parliez. C'est les groupes locaux de traitement de la délinquance, qui vous a valu un surnom de libération au bout de 3 ans, du shérif de la Duchère. Alors là, on a besoin d'explications.
On appelle ça des GLTD dans notre jargon. Moi, j'aime pas trop les acronymes, mais on appelle toujours ça GLTD, effectivement. Un GLTD, donc, c'est un groupe local de traitement de la délinquance. C'est un concept c'est pas moi qui l'ai créé, hein, qui a été créé 2 ou 3 ans auparavant et qui a été sacralisé par des circulaires du ministère de la Justice. C'est une doctrine qui consiste à choisir un micro-territoire et exercer sur ce micro-territoire une action publique qui va être menée un peu sur le concept de la tolérance zéro. C'est-à-dire que sur ce micro-territoire, on va faire en sorte que chaque infraction, chaque incivilité reçoive une réponse qui soit adaptée et que...
Ad hoc.
Ad hoc. Même l'acte le plus véniel soit-il, reçoivent effectivement une réponse. Ça peut être un rappel à la loi. Et ça consiste aussi, dans ce cadre-là, à cerner ce que je pourrais qualifier de noyau dur de la délinquance, qui est souvent constitué par des multiréitérants et des multirécidivistes, et alors là, effectivement, intensifier la réponse pénale contre ces gens-là, en partant du principe que c'est eux qui reviennent tout le temps devant la justice et qui commettent les plus grandes nuisances. Donc on avait à l'époque à Lyon à se lancer dans cette expérience parce que j'avais connu, je me souviens plus très bien de l'année, je sais plus si c'est 97 ou 98, des émeutes urbaines qui avaient affecté un quartier complexe qui était dans l'arrondissement où il y avait Gérard Collomb qui était le 9e, la Duchère, hein, où coexistaient d'ailleurs beaucoup d'anciens rapatriés d'Afrique du Nord et des immigrés, hein. Beurre d'origine subsaharienne, souvent, et donc des émeutes qui étaient intervenues à la suite d'un fait divers commis dans un commissariat très grave, hein, où la police intervient, arrête quelqu'un qui appartient à la communauté des gens du voyage, qui va être très provocant avec les policiers. On lui prend un fusil à pompe et à un moment donné, le policier qui tient le fusil à pompe s'entend dire par ce monsieur de la communauté du voyage, eh ben t'es pas capable de tirer. Donc le policier va faire une manœuvre intempestive avec le fusil, va appuyer sur la gâchette.
Il tire et tue l'homme
d'une décharge dans la tête. Donc plusieurs jours d'émeute et on va prendre la décision sur les conseils d'un commissaire de police d'engager un GLTD sur la Duchère. Que je vais porter sans aucune publicité, et on n'a pas communiqué ni médiatisé tout ça, ce GLTD, on va le porter pendant 2 ans et demi à 3 ans, avec l'éducation nationale, avec la police, avec les bailleurs sociaux. On va engager une enquête qui va durer des mois et qui va nous permettre d'identifier un trafic de stupéfiants dans le quartier avec plus d'une centaine de personnes qu'on va interpeller un beau jour au petit matin. Il y aura plus de 40 personnes qui vont partir en prison. Et avec toute cette action qui a duré 2 ans et demi, on est arrivé à l'époque, c'est ça qui explique sûrement le surnom que vous rappeliez, on est arrivé à faire baisser la délinquance sur ce quartier de 65 à 70%. Donc en réalité, on était arrivé à pacifier le quartier, mais ça démontre aussi que quand on veut faire du travail de fond, il faut faire du travail qui s'inscrit dans la durée et dans la qualité.
François Molins, après Lyon... Je l'annonçais au début de l'émission, il y a eu Angers. Mais Angers, vous avez été procureur de la République près le tribunal de grande instance en 2000-2001, puis directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice pendant 3 ans. Vous n'en parlez pas dans votre livre, c'était pas bien ?
Parce que j'y suis resté très peu de temps en réalité, j'y suis resté 1 an, puisque j'ai été appelé assez vite pour exercer des fonctions de responsabilité au ministère comme directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces, donc j'ai pas véritablement en 1 an eu le temps de lancer des actions de fond. C'est uniquement pour ça, c'est pas du tout une forme de mépris pour cette ville et ce poste, hein, que j'étais très heureux de retrouver, parce que je retrouvais enfin un poste de procureur de la République que je cherchais à obtenir depuis 1993, donc je le retrouve 7 ans après. Donc je l'ai vraiment apprécié, mais j'y suis pas resté suffisamment longtemps pour en parler.
En tout cas, procureur de la République, vous le devenez en octobre 2004, puisque vous obtenez le poste de procureur à Bobigny. Oui. Ça a été un des très grands moments de votre carrière, ça sera l'objet de l'épisode 3. À demain, merci beaucoup François Molins. C'était À Voix Nue avec François Molins, réalisation Clémence Grosse, prise de son Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.